Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale que j'ai la chance d'animer chaque semaine. Les affaires reprennent tout doucement cette seconde semaine des vacances de février où le printemps semble s'être invité un peu plus tôt que prévu. Musicalement, ça tombe bien puisque la sonate Le Printemps de Beethoven est jouée samedi lors du premier concert de la saison sur piano historique organisé par François Henry à la chapelle des Carmélites à Toulouse. Il y a d'autres événements d'ici là et nous allons nous faire un plaisir de vous les annoncer avec ceux qui ont accepté une nouvelle fois de participer à cette émission. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge est accompagné, comme la semaine passée, de Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Il va être beaucoup question de l'opéra et de l'Orchestre National du Capitole tout au long de ce numéro. Ça commence tout de suite avec notre rubrique « Retour arrière ».
Mélomanie, l'agenda.
Bienvenue à tous les deux, heureux de vous retrouver cette semaine pour revenir d'abord sur le concert qu'a donné l'Orchestre National du Capitole jeudi dernier à la Halle aux Grains, concert que devait diriger Tarmo Peltokoski, mais auquel a dû renoncer le jeune chef finlandais pour cause de maladie. Il a été remplacé par le chef allemand Konstantin Trinks. Ce qui n'avait pas changé en revanche, c'était le programme et la présence de la soprano australienne Siobhan Stagg. Je ne le prononce pas bien, Serge va me corriger tout de suite. Toujours est-il que ça s'est bien passé ce concert, Serge.
C'était très bien, Eric, vraiment. Je voudrais quand même que l'on félicite la réactivité de l'administration de l'orchestre, qui en 3 jours a fait venir ce chef allemand, grand spécialiste, ça tombe bien, de Mozart et de Richard Strauss. Et donc, finalement, en 3 jours, ils ont répété le programme qu'avait imaginé Tarmo Peltokoski, un programme particulièrement astucieux, intelligent, bien fait, bien monté. Et donc, d'abord, la foule était au rendez-vous. Et puis, ça a été un très beau concert. Le chef d'orchestre, Konstantin Trinks, a relevé ce défi. Et sans modification du programme, c'est ça qui est extraordinaire. La seule modification, il a inversé les deux parties, c'est-à-dire au lieu de commencer par les noces de Figaro comme c'était prévu, il a commencé par la flûte enchantée, et donc chacune de ces parties était une sorte de miroir entre Mozart et Strauss. Ça a été vraiment très bien fait et très bien monté. Alors, tout a commencé avec l'ouverture de la flûte enchantée, et là, il a impressionné vraiment par son engagement, sa précision, avec une ouverture très, très vive et très, très animée. Et puis, un sens des nuances et des phrasés qui étaient particuliers. Donc, vraiment très, très bien fait. Et puis, du même ouvrage, on a eu droit au grand air de Pamina, Ach, ich fühl's, le grand air de nostalgie, de tristesse de la princesse Pamina. Donc, et là, cet air a bénéficié vraiment du timbre lumineux de la soprano. Alors, Siobhan Stagg, qui est une soprano australienne avec un prénom irlandais. Et puis, elle a vraiment chanté cet air avec une émotion très touchante et un bel art du chant. Et puis ensuite, elle est passée à l'air redoutable de Fiordi Ligi, extrait de Così fan tutte, le Come scoglio, comme un rocher, donc un air enflammé. Là, c'était une toute autre caractérisation, avec une virtuosité impressionnante des vocalises. Et puis surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est la beauté, la clarté dans l'ambitus incroyable de cet air, puisque ça va de l'extrême aigu à l'extrême grave, et elle a fait ça avec une aisance incroyable, vraiment. En miroir de cette entrée en matière, donc mozartienne, on a eu droit à la fantaisie symphonique de La femme sans ombre, l'opéra de Richard Strauss, qui est assez rarement joué et qui a pourtant été donné au Théâtre National du Capitole en 2024. Alors cette fantaisie symphonique est une sorte de résumé en 20 minutes d'un opéra de 4 heures. Hein. C'était vraiment intéressant. Et alors, la proximité avec la flûte enchantée est patente là, puisqu'il y a des symboles ésotériques, une atmosphère de conte oriental. Et donc il a fait ça vraiment avec une opulence de l'orchestre, un chatoiement des timbres, un relief sonore qui était magnifique, avec des solos instrumentaux qu'il faut saluer Et notamment, alors il y a eu là un solo de trompette, de cordes, de violon, de hautbois, mais alors il y a surtout l'incroyable beauté d'un redoutable solo de trombone qui est chanté dans l'ouvrage, et là qui est donc donné, joué par le trombone. C'est d'abord très long et très redoutable, et là il faut vraiment féliciter David Loqueneux, qui est le soliste tromboniste de l'orchestre. Vraiment excellent. Ensuite, on a eu droit à la deuxième partie de cette confrontation, en quelque sorte, qui a débuté par les Noces de Figaro et qui s'est terminée par la suite du Chevalier à la Rose. Alors, l'ouverture des Noces pétillait vraiment d'une vitalité, d'une joie absolue, avec beaucoup de nuances dynamiques, des phrases habiles dans l'orchestre, et ensuite les deux airs de la comtesse, les deux airs les plus célèbres, Poggiamor et Dove sono, chantés par Schwanstack de nouveau. Alors le premier avec une douleur, une grande nostalgie, une grande sensibilité de son chant, dans le deuxième également. Donc elle a eu un grand succès, un tel succès qu'elle a chanté un bis. Et ce bis, c'était un retour à Così fan tutte avec le fameux air de Despina, Una donna a 15 anni, la femme de 15 ans. Donc, alors là, c'était un sens de la comédie qu'elle a démontré de manière tout à fait impressionnante. Et puis le concert s'est achevé avec la brillante suite pour orchestre du Chevalier à la Rose, avec cette richesse colorée que l'on connaît. Et là aussi, les interventions solistes du violon, du corps, surtout, de la trompette, du hautbois, etc. Donc c'est une performance vraiment impressionnante qui a été réalisée pour la mise au point en quelques 3 jours tout de même.
Hein. Oui.
Ce qui est quand même une performance.
Non, c'était pas gagné comme ça.
Hein. Ah oui, oui. Donc il faut évidemment féliciter le chef, hein, Constantin Trinks, et féliciter l'orchestre, hein, qui vraiment...
Bah, qui a dû s'adapter aussi.
Démontre là...
Une direction qu'il ne connaissait pas, parce qu'il n'avait jamais dirigé...
Jamais dirigé, c'était la première fois qu'il venait en France. Et puis, précisons quand même que la soirée s'est achevée sur un hommage fleuri, rendu par Jean-Baptiste Fra, le délégué général de l'orchestre, à la violoniste Sylvie Moujat, qui partait en retraite. Ça se fait traditionnellement à l'Orchestre du Capitole. Soit le chef, soit ici le délégué général, vient offrir un bouquet de fleurs à la personne qui prend sa retraite. Et donc on lui...
Mais il y a une génération qui s'en va là, depuis un ou deux ans. Là, on en voit partir, qu'on connaissait depuis, pour certains, des dizaines d'années.
Pour elle, ça faisait 40 ans qu'elle était à l'orchestre.
Il y en a qui ont fait toute leur carrière à l'Orchestre national du Capitole.
Donc l'orchestre se rajeunit, effectivement.
Et qui ont connu un certain nombre de chefs, mine de rien.
Ah oui.
Nous allons pouvoir écouter la belle voix de Coloratour de reprononcer bien son prénom.
Schwanstack.
Schwanstack, dans une interprétation d'un des airs qu'elle a chanté jeudi à la Halle au Grain, Ach ich fühl's, air de Pamina dans La Flûte Enchantée.
Thank you.
Ach, ich fühl's, air de Pamina dans la flûte enchantée, interprété par la soprano australienne Siobhan Stagg, qu'on aura peut-être le plaisir de réentendre un jour à Toulouse, qui sait. Nous allons rester dans l'art lyrique en revenant maintenant sur la première représentation de Jules César, l'opéra de Georg Friedrich Händel au Théâtre du Capitole. Nous vous avions présenté cet événement la semaine dernière. Il reste deux représentations vendredi et dimanche prochain. Robert a assisté à la première vendredi dernier et il va pouvoir nous faire part de ses impressions. Comment avez-vous trouvé cette nouvelle production qui constitue, rappelons-le, une entrée au répertoire du Capitole pour cette œuvre?
Alors, cette entrée se fait, je l'avais mentionné, dans le cadre d'une très, très vaste coproduction, puisque, en fait, se sont associés le Théâtre des Champs-Élysées et les opéras de Leipzig, de Montpellier, de Rome et le Théâtre du Capitole. Donc, une très vaste coproduction. Et c'est dans ce cadre-là que vient de se faire cette entrée au répertoire du Capitole, une entrée, je le dis d'emblée, escorté d'un plateau vocal hors pair au milieu duquel brille une incroyable pépite, on va y revenir. Alors, parlons d'abord de la mise en scène de Damiano Micheletto, qui se produisait en fait pour la première fois au Théâtre du Capitole. Il décale la scène, l'action, à notre époque. Je dois dire qu'il le décale sérieusement, puisqu'en fait, l'épisode historique se passe en 48 avant Jésus-Christ. Et c'est un épisode, très brièvement, qui vit César poursuivre son rival Pompée jusqu'en Égypte à ce moment-là. Et l'histoire nous relate que pour obtenir les faveurs de César et évincer sa sœur Cléopâtre du pouvoir pharaonique, Ptolémée offrit à César la tête de Pompée. Et malheureusement, pour lui, César le prit très mal, ce type de cadeau. Et l'histoire nous dit également que ça a fini mal pour le frère de Cléopâtre. Alors, le rideau s'ouvre sur un cube blanc, dont on pourrait imaginer quelque chose de plus évocateur, mais c'est comme ça. Donc, pas de mobilier, pas d'accessoires pour l'instant. Alors, dans cet univers qu'on pourrait presque qualifier d'aseptisé, presque clinique, vont évoluer les personnages vêtus de costumes comme vous et moi actuels. Et de temps à autre, une paroi de ce cube s'élève et laisse apercevoir des échappées que l'on devinera oniriques, dans lesquelles déambule le fantôme de Pompée, mais aussi trois personnages nus, enfin avec des collants, du moins bien sûr. Ce sont des sortes de parcs, hein, ou du moins des nornes nordiques, cher Wagner.
Dans les parcs, c'est P-A-R-Q-U-E-S. Non, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une parc.
Voilà, et entre ces trois personnages et le fantôme de Pompée, très clairement, c'est la mort qui rôde en permanence autour de tous les personnages de cet opéra. Il y a malgré tout, à certains moments, un groupe, un groupuscule qui est historisé de manière vestimentaire de l'époque de l'action, l'époque historique de l'action. Non, c'est un groupe de sénateurs. Alors, ces sénateurs romains, évidemment, on les reconnaît parce qu'ils sont vêtus de la toge préteste. Voilà. Et puis, très clairement, à certains moments, ils vont déambuler avec des poignards à la main et ils représentent un peu le cauchemar prémonitoire de César, qui sera évidemment assassiné. Il faut le rappeler, à peine 2 ans après l'épisode égyptien. Et puis, à un autre moment, on verra une immense table qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une certaine table en marbre autour de laquelle il y avait deux personnages qui font le... Vous voyez ce que je veux dire ? Notre président et le président russe, et ils ne sont que deux assis autour de cette table. Et puis, à un autre moment, qui est très beau d'ailleurs, des serviteurs vont venir porter d'immenses candélabres sur la scène. Ça sera tout. Tout ça pour vous dire que la mise en scène, en définitive, se concentre sur les chanteurs. Pourquoi pas, hein ? Parce qu'elle finit par tracer des portraits relativement convaincants des protagonistes quitte à forcer le trait, on va y revenir, en particulier sur le personnage de Ptolémée. Puis finalement, on arrive à certains moments, grâce à de beaux éclairages, à voir des tableaux vraiment d'une réelle beauté esthétique et qui surtout offrent de véritables écrins aux chanteurs, des écrins de sérénité, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés de faire 50 000 choses et ils se concentrent, et ils concentrent leur corps, leurs efforts, leur souffle sur le chant. Et Dieu sait qu'ils ont raison parce que la partition de Handel est loin d'être commode à chanter. Ils sont accompagnés. Alors, le soir, j'aime bien préciser, c'est mon impression, et le soir, comme vous le disiez, Eric, de la première, hein, mais je n'ai pas été spécialement subjugué par l'accompagnement des talents lyriques dans l'orchestre dirigé par Christophe Rousset, qui, pour ma part, a manqué un peu de brillance, d'acuité, d'incisivité à certains moments. Bon, je ne sais pas si c'était le fait de la première ou quoi, mais...
On se pose toujours la question dans ces cas-là.
Voilà, alors vous qui allez le voir par la suite...
Plutôt vers la fin, oui.
Vous nous direz la semaine prochaine un peu comment est-ce que les choses ont évolué. Mais bon, vous l'avez bien compris, l'essentiel était ailleurs. L'essentiel était dans cette pluie d'étoiles que Christophe Gristy a réunie et dans lequel il y a vraiment un soleil qui nous a aveuglés.
Bon, alors on va en parler, on va faire une nouvelle petite pause musicale, illustration plutôt. Vous l'avez dit, donc ce sont les talents lyriques qui sont dans la fosse sous la direction de leur fondateur Christophe Rousset. On va écouter un extrait de Jules César, c'est un des airs de Cléopâtre à l'acte 3, Da tempeste il legno infranto, et c'est une version qui est chantée par Sandrine Piau. Da tempeste il legno infranto, air de Cléopâtre à l'acte 3 de Jules César, chanté ici par Sandrine Piau, accompagné par l'ensemble Les Talents Lyriques sous la direction de Christophe Rousset. Alors Robert, c'est le moment, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que vous avez pensé des prestations des chanteurs dans la production que l'on peut voir actuellement au Théâtre du Capitole?
Alors, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce qu'a pensé le public également? Parce qu'autant vous le dire de suite que le triomphe de la soirée, c'est également, entre guillemets, mon triomphe,
tant mieux.
Le triomphe que j'aurais accordé également. Il revient au contre-ténor américain Kimon Mura, qui a 35 ans aujourd'hui, et qui chantait le fils de Pompée.
Oui.
Voilà, Sesto. Et le fils de Cornelia, en l'occurrence également. Et c'est un contre-ténor, et franchement, alors Dieu sait que le rôle est complexe, il est long, il est hérissé de difficultés, de vocalises qui n'en finissent plus. Mais... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a déjà chanté à Toulouse.
Vous nous l'aviez dit la semaine
oui,
dernière.
Oui, il a chanté dans un oratorio de Noël dirigé par Jordi Savall.
Ah oui, c'est ça.
Voilà. Bon, alors je me suis aperçu que pas grand monde ne s'en souvenait. Alors lui, qu'est-ce qu'on entend ? C'est un timbre d'un velours absolument irrésistible, d'une rondeur d'émission incroyable, un ambitus gigantesque, mais quasiment 3 octaves. Donc il lève en définitive un voile sur ce que devait être la voix des castrats. C'est un virtuose avec un souffle absolument incroyable de longueur. Là, je reviens donc au castrat, qui était bien connu pour avoir un souffle qui n'en finissait plus. Il projette sa voix avec une infinité de nuances et de dynamiques incroyables et il a littéralement fasciné, mais vraiment fasciné le public, à juste titre d'ailleurs. Et le duo avec sa mère, qui est peut-être, je crois, l'acmé de cet opéra, Sonato a Lagrimar, est à la fin du premier acte et d'ores et déjà, je crois, entrer dans la légende du Capitole. Il faut dire qu'en plus, l'interprète de Cornelia, dont la veuve de Pompée, et la maman de Sesto, dont n'était autre que la mezzo-soprano Irina Sherazadejvili, qui lui donnait la réplique don. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette magnifique, et à tous les sens du terme d'ailleurs, mezzo-soprano, puisqu'elle chantait Fenena lors des dernières reprises de Nabucco, il n'y a pas très longtemps, au Théâtre du Capitole. Alors elle a un timbre extrêmement charnu, capiteux, une ligne de chant absolument admirable, et qui sait se plier. Alors ça, c'est très intéressant en plus, parce que l'écriture de Cornelia est une écriture très large. C'est le personnage le plus tragique. Elle passe son temps, alors c'est pas un reproche que je lui fais, c'est le personnage qui est comme ça. Elle passe son temps à se lamenter, il ne faut pas oublier qu'elle est veuve, que voilà, elle est courtisée autant par différents personnages, parfois qui sont peu recommandables. Voilà, elle doit se battre là-dessus aussi. Donc, elle a un rôle très dur à défendre. Et Handel lui a écrit des arias absolument sublimes, mais très larges au point de vue écriture. Et Irina Sherazadejvili se complaît vraiment vocalement dans ce personnage avec des moments de grâce absolument ineffables. Des applaudissements également nourris et chaleureux sont également venus saluer un double exploit. D'abord l'exploit du rôle-titre, tenir le rôle-titre, le rôle de Jules César, c'est déjà quelque chose parce que le rôle est très long. Très très long, et puis lui aussi est hérissé de trilles, de vocalises, de différents affects qu'il faut chanter. En plus, un rôle travesti, lorsqu'on est une dame, c'est aussi un challenge pour chanter ça. Et en l'occurrence, c'était le cas à Toulouse, puisque c'était la contralto québécoise Rose Nagard Tremblay. Alors, pourquoi un double exploit ? Puisqu'en fait, elle a été prévenue qu'elle a chanté ce rôle
3 semaines avant,
une semaine avant le début des répétitions. Puisque, en fait, elle était prévue pour chanter Cornelia.
Et oui.
Donc, elle s'est lancée là-dedans. Le Capitole l'y a mis à sa disposition totale. L'ancien chef de chant du Capitole, Robert Gonella, qui vit à Toulouse. Et donc, il s'est mis comme tout le monde sur cette partition diabolique. Et le résultat est vraiment impérial d'autorité vocale, scénique. En plus, Rose Nagard Tremblay, comme vous le constaterez, porte parfaitement le travesti. Et elle s'est immergée dans ce rôle avec une aisance qu'on pourrait qualifier de confondante d'aplomb. Parce que c'est un rôle compliqué en définitive. Hein. Il n'y a pas que le futur empereur. Il y a également un personnage qui a pris toute l'ampleur, son ampleur historique. Donc c'est quelqu'un qui comprend parfaitement ce qu'a fait Pompée, qui comprend aussi parfaitement le jeu qui est en train de se jouer entre Ptolémée et Cléopâtre. Et donc il doit se faufiler entre tous ces personnages. Mais en même temps, c'est un jeune homme qui tombe fou amoureux d'une esclave qui s'appelle Lydia, mais qui est Cléopâtre déguisée. Donc c'est un peu, à un moment, c'est un peu, on se trouve face à un adolescent qui a tout d'un coup son petit cœur qui se met à battre dans tous les sens.
Non, mais ça veut dire que la psychologie du personnage est difficile à restituer sur scène.
Oui, et donc pour l'interprète, il faut qu'elle fasse passer tous les affects de ce personnage, et ça, c'est pas facile. Face à lui, Cléopâtre, c'est la Cléopâtre de Claudia Pavone. Nous la connaissons encore une fois, je le répète, puisqu'elle a été l'une des dernières Traviata du Théâtre du Capitole. Alors c'est une Cléopâtre, très clairement, on comprend facilement que Jules César tombe en pamoison devant cette splendide créature. Alors rappelons qu'elle sera Normand au Capitole dans quelques semaines. Mais en dehors de ça, évidemment, elle déploie dans Cléopâtre un magnifique et lumineux soprano. Elle également, elle affronte toute cette partition qui, Dieu sait, difficile. Et en plus, elle agrémente de contre-notes, puisque vous savez, c'est le principe même de l'opéra seria, c'est les reprises d'a capo. Et dans ces reprises, les chanteurs ont la liberté de faire absolument ce qu'ils veulent. Et elle prend la liberté de notes absolument vertigineuses. Et donc, elle nous rend encore plus impatients de l'entendre dans sa norma. Et il faut reconnaître que son air du troisième acte, qui est très connu, évidemment, hein, le Piangero la sorte mia, nous a mis littéralement les larmes au bord des yeux. Alors ensuite, il y a un autre personnage très très important, c'est celui de Ptolémée, qui est distribué à un contre-ténor. Cette fois-ci, il n'est pas américain, il est allemand, qui faisait ses débuts au Théâtre du Capitole, il s'appelle Niels Wanderer. Alors lui, pour le coup, le metteur en scène en a fait un être extraverti, mais très extraverti, très efféminé, une interprétation queer, on peut dire, carrément, de ce personnage, un personnage halluciné et dans lequel Niels Wanderer se jette, mais on va dire à gorge déployée et même à corps déployé, mais à tel point que parfois il brutalise un peu sa voix, donc un peu brutalisant également les liaisons de registres, ça peut choquer l'oreille, mais en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment, il caractérise à corps et âme, on va dire, le personnage de Ptolémée, qui, rappelons-le pour la petite histoire, c'est que historiquement, Ptolémée, je crois que c'était le 13e de la dynastie des Ptolémées, il avait 15 ans à cette époque-là. Alors ensuite, quelqu'un qui est venu aussi un peu remplacer rapidement un interprète qui s'est retiré de la production, nous avons fait connaissance avec un baryton barcelonais qui s'appelle Joan Martín Royo, qui assume un rôle peu reluisant, faut le reconnaître, dramatiquement, d'Aquila, qui est le général de Ptolémée, qui est amoureux également de la veuve de Ptolémée, Cornelia, et puis qui finalement va trahir Ptolémée. Bon, enfin, c'est vraiment un personnage peu reluisant, voilà. Mais il n'empêche qu'il a, en l'occurrence, ce baryton a une très belle voix, il a un très bel air à chanter, et il s'assure de cet air avec beaucoup de franchise. Et ensuite, il y a un autre contre-ténor que nous connaissons, lui, qui s'appelle William Shelton, qui fut, vous en souvenez, un gobs absolument cauchemardesque, et qui chante le rôle de Nireno, le confident de Cléopâtre, un rôle beaucoup plus doux, beaucoup plus sympathique. Et enfin, on a Adrien Fournaison, qui est le français de l'État, et en définitive.
Bah, William Shelton est franco-britannique.
Il est franco-britannique, pardon, oui.
Et je crois d'ailleurs qu'il a plutôt grandi en France, hein, même si son nom pourrait laisser entendre qu'il est plutôt de l'autre côté de la Manche, mais
c'est vrai.
Il est formé au conservatoire de Paris.
De Paris, voilà. Alors Adrien Fournaison, il est franco-français, et lui il a un rôle un peu moins important, qui est le personnage de Curio, qui est un tribun romain, voilà. Mais il n'empêche qu'il tient sa place parfaitement.
Et voilà, une distribution qui était large, mais avec... si j'ai bien compris, quand même, beaucoup de chanteurs qui valent le coup d'être entendus.
Oui, hein. Non, absolument, voilà.
Nous allons conclure cette première partie d'émission et ce retour sur la production de Jules César, actuellement visible au Théâtre du Capitole, en réécoutant un petit extrait uniquement musical, celui-ci, avec les talents lyriques de Christophe Rousset. extrait de Jules César interprété par les Talents Lyriques sous la direction de Christophe Rousset. L'opéra de Handel est encore à l'affiche du Théâtre du Capitole pour deux représentations, le vendredi 28 février à 19h et le dimanche 2 mars à 15h pour la dernière. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale et l'on se retrouve avec Serge Chosy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Nous allons rester au Théâtre du Capitole pour ouvrir cet agenda de la semaine. Lors de notre précédent numéro, nous avions annoncé que la soprano Véronique Jeance y donnait la voix humaine, le chef-d'œuvre de Francis Poulenc. Ce mercredi 26 février à 20h, accompagné par le pianiste Christophe Magnien. Ce rappel étant fait, il faut noter que le lendemain, un des chanteurs appartenant à la distribution de Jules César est en récital à 12h30, jeudi 27 février, donc dans le cadre du cycle des Midis du Capitole. Il s'agit du contre-ténor franco-britannique dont nous parlions à l'instant, William Shelton. Accompagné par le pianiste Julien Leblanc, il propose un programme de mélodies françaises, mais pas seulement. Je vais laisser à Robert le soin de nous présenter ce chanteur et les œuvres qu'il va interpréter jeudi. Donc William Shelton, c'était Goebbels dans Voyage d'automne.
Oui, alors vous vous souvenez Goebbels, c'est-à-dire Goebbels dans Le Voyage d'automne, Bruno Mantovani.
Effrayant.
Un rôle absolument effrayant, mais vraiment effrayant. Mais même qu'il avait marqué personnellement.
Oui, je veux bien le croire.
Alors je ne dis pas qu'il avait hésité à l'interpréter, c'est parce qu'il ne me l'a pas dit. Mais ce qu'il m'a dit du moins, c'est que quand il a regardé la partition de près et ce qui était derrière exactement, il a été complètement effrayé. Et il s'est dit, mais comment je vais pouvoir interpréter un tel personnage? Et il l'a fait, vous en souvenez tous. Ah,
très bien.
Admirablement.
Oui, oui, très voilà. Bien. Parce que c'est un jeune chanteur, William Shelton. Enfin,
je sais pas qui l'a dit là, mais... C'est un jeune chanteur, oui. Donc. Bruno Mantovani avait choisi de distribuer ce rôle à un contre-ténor
oui.
À cause de la voix aiguë, évidemment, des contre-ténors, pour montrer un peu quel était ce personnage très particulier.
Bah, lui donner une voix de fausset quand on sait à quoi ressemblait physiquement.
Voilà.
Goebbels avec son pied beau et puis oui. Son allure un peu décharnée. Oui. Oui, c'était pas. J'avais trouvé ça très cohérent. Hein.
Oui, 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 tout à fait. Il a voulu donner une voix complètement désincarnée,
oui,
en
oui,
définitive,
oui, oui, oui.
À un personnage qui, évidemment, était désincarné, mais lui, il était désincarné moralement.
Oui.
Là, nous avons retrouvé William Shelton quand même dans un rôle, comme je disais précédemment, beaucoup plus sympathique.
Oui.
Et nous allons pouvoir encore plus apprécier sa voix dans ce récital, dans ce Midi du Capitole. Je tiens à souligner que c'est la première fois qu'un contre-ténor est invité
effectivement,
au Midi du Capitole.
Pas le souvenir, des ténors, des barytons, on en a eu, mais
voilà. Alors, vous savez qu'il était programmé, mais en remplacement de Rose Nagard Tremblay, qui, elle...
a dû monter d'un cran
oui,
dans la distribution de Jules César.
De deux ou trois crans, même.
Oui.
Et elle ne pouvait pas assumer le Midi du Capitole.
En même temps,
et en même temps Jules César, qui est quasiment donné, je pense, tous les deux soirs.
Oui.
C'est un rythme quand même assez effréné, quand on sait que c'est un opéra très long et très difficile à chanter. Donc, nous retrouvons, et il faut s'y précipiter et en profiter, pour bien faire connaissance avec tout le talent de ce contre-ténor. Cette fois-ci, il vient et nous expose un répertoire très varié. Et comme vous disiez très justement, il est franco-britannique, et plus franco que britannique finalement, puisque donc son répertoire fait une large place au répertoire hexagonal.
La mélodie française.
Reynaldo Hahn, Charles Gounod, Gabriel Fauré, Claude Debussy, s'il vous plaît.
Alors, ça sera du piano, ça. Claude Debussy, ça
alors,
sera,
Claude
c'est
Debussy,
du piano seul.
Ah oui, c'est vrai, c'est Jardin sous la pluie.
Donc c'est Julien Leblanc qui va
oui,
jouer
oui,
Jardin sous la
sûr,
pluie
bien sûr, bien sûr.
Pour laisser respirer un
mais
peu le chanteur.
Mais il y a également Lili Boulanger,
ah, oui.
Saint-Saëns et Ravel. Mais pas que. Quand même, il ouvre son répertoire à l'international et bien sûr à sa deuxième patrie qui est l'Angleterre avec un extrait d'opéra, un extrait du Songe et une idée de Benjamin Britten, le grand air d'Oberon, Welcome Wanderer, et en même temps Handel, évidemment, un extrait de Rodelinda, un air de Berta Rido, Dovesei, et un air italien, vraiment italien, de Francesco Cavalli, extrait Gli amori d'Apollo e di Daphne, un air d'Apollo, Misero Apollo. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment
c'est un joli programme,
un programme magnifique.
Très joli programme.
Mais vraiment magnifique, qui va nous montrer tout le talent et toutes les capacités de chanteur de ce jeune interprète. Donc, rappelons, Eric, rappelez la date et l'heure.
Donc, c'est le jeudi 27 février à 12h30, ça s'appelle Midi du Capitole, mais c'est à 12h30. Oui, hein. Ne t'arrivez pas une demi-heure trop tôt. Et ça dure une heure.
Ça dure une heure.
Pour une somme très modique, rappelez les tarifs.
5 euros.
C'est donné, quoi. Hein. Voilà. Il ne faut vraiment pas se priver. Hein.
5 euros. Précipitez-vous, comme d'habitude, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Oui. Voilà. À tous les Midi du Capitole, c'est pareil. Rappelons également, si vous permettez, que également pour Jules César, c'est un peu, entre guillemets, l'enfer pour avoir des places.
Il y aura des places vendredi surtout. Hein,
pour le 28, vendredi, voilà. Pour le 28, il reste quelques places. Ouais, ouais, ouais. Après, n'essayez même pas, c'est plein.
Nous allons écouter William Shelton qui chante « Nous nous aimerons tant », une mélodie de Lily Boulanger sur un poème de Francis Jammes qui est au programme du Midi du Capitole de jeudi. Il est accompagné ici par la pianiste Juliette Journeau. William Shelton chantait « Nous nous aimerons tant », mélodie de Lily Boulanger, composée sur un poème de Francis Jammes, accompagné par la pianiste Juliette Journeau. Le contre-ténor franco-britannique donne donc un Midi du Capitole jeudi 27 février à 12h30, accompagné cette fois-ci par le pianiste Julien Leblanc. Son programme est essentiellement constitué de mélodies françaises auxquelles s'ajoutent des airs signés Britten, Cavalli et Handel. Robert, vous vouliez nous annoncer un autre récital très important.
Très
pas raté non plus, celui du baryton allemand Michael Volle.
Voilà,
on peut dire Michael Volle, hein, si vous voulez. Toujours est-il que c'est le jeudi 6 mars, c'est le jeudi suivant, le 6 mars. Mais c'est à 20h parce que c'est un récital. C'est pas un
c'est un récital dont, au prix unique de 20 euros. Et pour 20 euros, vous avez celui qui est en train de triompher à l'heure où je parle. Dans la Valkyrie à la Scala de Milan. Il chante Wotan et...
Un petit rôle, quoi.
Oui. Un petit oui, comme tu dis, oui, Serge, oui, un petit rôle, oui. Mais c'est absolument incroyable la chance que l'on a Je ne sais pas comment Christophe Gristy a pu le convaincre de venir juste pour une soirée et dans l'un de ses répertoires favoris, qui est le répertoire du Lied, et Schubert en particulier.
Schubert, oui.
Voilà. Et on sait très bien que les grands votants ont tous été de grands chanteurs de Lieder.
Et de grands Schubertiens, entre autres.
Et je pense à Hans Otter, je pense à Fischer Dieskau, je pense à Serge.
Oui, oui, là, vous citiez les plus grands, là.
Il y a un lien, là, oui.
Voilà. Et Michael Wohl, je pense que c'est une chance absolument incroyable au sens étymologique du terme. Quoi. Tant qu'on ne l'aura pas vu, on ne l'aura pas cru. Parce que c'est l'avoir ce soir-là, juste après la Scala de Milan, où il triomphe. Parce que j'ai des échos quasiment tous les jours de ce qu'il fait. Mais c'est le grand votant actuel.
Donc il y aura Franz Schubert et Franz Liszt,
Dans
ce concert.
Dans ce programme, voilà.
Et c'est un programme, pour ceux qui aiment ce genre du Lied, magnifique. Hein, vraiment magnifique. Michael Folle. Le jeudi 6 mars à 20h au Théâtre du Capitole en récital. Alors je vous disais que nous allions parler uniquement de l'établissement du Capitole dans cette émission et il se trouve en effet que cette semaine, hormis ce qui se passe sur la scène de l'Opéra, il y a aussi deux concerts de l'Orchestre National du Capitole. Le premier a lieu également le jeudi 27 février. Mais à 20h et à la Halle au Grain, Tarmo Peltokoski devrait être remis, on l'espère, pour le diriger. À 7h, en tout cas, il apparaît toujours sur le site web de l'orchestre, donc pas d'inquiétude. Lors de cette soirée, Serge, nous allons non seulement retrouver le jeune chef finlandais, nouveau chouchou du public toulousain, mais aussi une musicienne tout autant appréciée des habitués de la Halle au Grain.
Absolument, il s'agit de la violoncelliste donc d'origine argentine, Sol Gabetta, qui est d'ailleurs une amie d'enfance de Bertrand Chamaillou, avec lequel elle joue très souvent en duo. Et donc, elle sera là pour une œuvre relativement rare qui s'appelle « Shelomo », une rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre. En fait, c'est l'un des chefs-d'œuvre du compositeur suisse Ernest Bloch. C'est en fait un concerto, hein, trois mouvements, très beau, très intense, très fort. Donc, on est très heureux de retrouver Sol Gabetta avec l'Orchestre National.
Alors, en fait, c'est son compatriote, Ernest Bloch, parce que vous l'avez dit, elle est d'origine argentine, mais elle est suisse aussi.
Elle est suisse, voilà, voilà. Cette œuvre d'Ernest Bloch est entourée de deux autres œuvres importantes, dont, en ouverture de concert, le fameux Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, prélude que lui-même a sous-titré « Églogue pour orchestre » d'après Stéphane Mallarmé. Évidemment, le poème « L'après-midi d'un faune » de Stéphane Mallarmé.
Les deux hommes étaient très proches. Debussy était un habitué des fameux mardis de la rue de Rome chez Mallarmé.
Voilà, c'est ça. Nous entendrons Tarmo Peltokoski diriger de la musique française, ce qui est intéressant. Et puis, en fin de concert... Alors là, c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus courant. C'est la première symphonie, Titan, de Gustav Mahler. Une symphonie, qui est probablement la plus souvent jouée de Gustav Mahler, qui est très appréciée de tous les publics et qui, à la création, a été très mal reçue, puisque un journaliste avait écrit « Son poème symphonique est vulgaire et insensé ». Et il avait précisé « Nous aimerions toujours le voir derrière son pupitre ». C'est un bon chef d'orchestre, à condition qu'il ne dirige pas ses propres compositions. Voilà de quelle manière était accueillie cette symphonie. Donc, un beau concert à ne pas manquer.
Oui, le prélude à l'après-midi d'un faune, c'est un peu un grand classique de l'Orchestre National du Capitole depuis l'époque Plasson. Hein.
Oui, absolument.
On l'entend très souvent, mais cette symphonie numéro 1, Titan de Gustav Mahler, et puis Shelomo de Ernest Bloch, ça par contre, c'est pas quelque chose qu'on va entendre
Shelomo,
tous les ans.
C'est moins courant.
Oui, tout à fait. Eh bien justement, je vais vous faire entendre le beau son du violoncelle de Sol Gabetta qui joue ici chez l'Homo d'Ernest Bloch, accompagné par l'Orchestre National de Lyon.
Thank you.
Sol Gambetta jouait Shelomo d'Ernst Bloch, accompagné par l'Orchestre National de Lyon. La violoncelliste est à l'affiche du concert du jeudi 27 février à 20h à la Halle au Grain. Un concert que va donc diriger Tarmo Peltokoski. Et on prend presque les mêmes et on recommence, puisque l'Orchestre National du Capitole est de nouveau à l'ouvrage, avec Tarmo Peltokoski à la baguette, samedi 1er mars à 20h30. Mais cette fois-ci, d'une part, ce n'est pas la violoncelliste Sol Gambetta qui est invitée en tant que soliste, et d'autre part, ça ne se passe pas à la Halle au Grain, ce qui est rare à Toulouse pour notre orchestre. Serge va nous donner quelques explications, parce que c'est une soirée un peu particulière tout de même.
Oui, qui se déroule quand même dans une halle, mais pas la Halle au Grain, la halle de la machine, auprès des grands personnages qui animent...
Au milieu des machines.
Qui habitent cette...
Du Minotaure,
cette
halle, Lilith,
voilà,
là.
L'araignée, Lilith, bon, etc. Et donc, l'orchestre se déplace donc à la halle de la machine. Le concert aura lieu le samedi 1er mars, attention, à 20h30.
Oui, même l'horaire est différent.
Oui, même l'horaire, avec... Un soliste que l'on connaît bien à Toulouse,
oui,
qui est le jeune violoniste Daniel Lozakovic, vraiment grand violoniste, qui a maintenant 23 ans, mais qui a joué très jeune à la Halle au Grain.
À 14-15 ans, on le voyait déjà.
Exactement. Et là, il sera le soliste du concerto pour violon et orchestre numéro 3 de Mozart. Et la suite, alors c'est très bizarre, parce que la suite fait un contraste extraordinaire avec ce concerto de Mozart, ce sera la symphonie numéro 4, romantique, d'Anton Bruckner, une symphonie particulière qui est tout imprégnée de légendes médiévales, au point que lui-même a commenté chaque mouvement avec des expressions liées à cette époque, notamment plusieurs passages sont notés « ville médiévale, chevalier se lançant au dehors » sur de fiers chevaux, ça c'est le premier mouvement, et puis l'autre, amour repoussé pour le second, etc. Danse pour le repas de chasse pour le troisième mouvement. Il a vraiment voulu que cette symphonie résonne de manière particulière. Donc voilà, ce sont ces deux œuvres qui seront données ce soir-là à la Halle de la Machine par l'Orchestre National du Capitole, et donc Tarmo Peltokoski.
Voilà, au milieu des machines de François Delarosière. Alors, il se trouve que l'Orchestre National du Capitole a joué le concerto pour violon numéro 3 de Mozart il y a quelques années à la Halle au Grain, avec le violoniste israélien Vadim Glouzman. Nous écoutons cette version concert dans le premier mouvement Allegro. Le deuxième mouvement, et non pas le premier, deuxième mouvement Adagio du concerto pour violon numéro 3 de Mozart dans une version de l'Orchestre National du Capitole avec Vadim Glouzman, mais c'est bien le jeune violoniste suédois Daniel Lozakovic qui le joue avec l'ensemble symphonique toulousain sous la direction de Tarmo Peltokoski, samedi 1er mars à 20h30 à la Halle de la Machine. La symphonie numéro 4 de Bruckner est l'autre œuvre au programme de cette soirée. Deux jours avant, l'Orchestre National du Capitole est en concert à la Halle au Grain, jeudi 27 février à 20h, également sous la direction de Tarmo Peltokoski, mais avec la violoncelliste Sol Gabetta qui joue ce soir-là chez l'Homo d'Ernstblock. Et pour ces deux concerts, l'achat et la réservation des places se font sur le site www.onct.toulouse.fr. C'est ce même jeudi 27 février que le contre-ténor William Shelton donne son Midi du Capitole à 12h30, accompagné par le pianiste Julien Blanc. Il va interpréter un programme essentiellement constitué de mélodies françaises au Théâtre du Capitole, où vous pouvez aussi assister aux deux dernières représentations de Jules César, l'opéra de Handel, les vendredis 28 février à 19h et dimanche 2 mars à 15h. Pour ces deux événements, les places sont à réserver et acheter sur le site www.opera.toulouse.fr. Et je rappelle que le premier concert de la saison sur piano historique, organisé à la chapelle des Carmélites de Toulouse par le pianiste François Henry, a lieu ce samedi 1er mars à 19h30. François Henry propose un programme de sonates pour violon et piano avec la violoniste Gilonne Gobert. Vous pouvez réserver vos places en envoyant un mail à l'adresse pianomuse@yahoo.fr avec un S à Muse. Tous mes remerciements à Serge Chosy et Robert Pénavert qui ont encore une fois co-animé ce numéro à mes côtés. Merci aussi à Christophe Aubry, le réalisateur de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence comme d'habitude. Et je remercie enfin ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Excellente semaine musicale à tous.